Il est bon d'être dans la maison de Dieu ce matin et de louer, d'adorer Dieu et de se plonger dans sa parole. Nous souhaitons encore une fois la bienvenue à tous. Merci à Marius. Marius, merci d'avoir partagé ton expérience au Tchad, c'était génial, j'ai apprécié. Et c'est vraiment incroyable également ce que Dieu fait pour ce culte. Alors que, comme Vincent le disait pendant la louange, ce chant qu'il a dit, ce chant dont il a parlé, moi j'entends des larmes parce que je me dis, on s'est demandé au début de la semaine quelle chanson on aurait dû choisir pour aller avec le message. Et vraiment, ça aurait été ce chant-là. Et en fait, on ne s'est pas concerté. Je pense que le Saint-Esprit l'a guidé lui, m'a guidé moi, parce que ça correspond vraiment au message. Alors, gloire à Dieu pour cela. Donc c'est notre troisième dimanche ici. On est nouveau ici, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui, d'entre vous qui sont nouveaux, sachez que nous aussi nous sommes nouveaux. Donc on accueille tous ceux qui sont là depuis longtemps ou depuis peu, ou pour un temps plus court. Je vous annonce une ou deux choses. J'ai appris que la tarte flambée, c'est quelque chose de très bon. Là, j'ai appris ça. Et hier soir, on en a parlé pour le Trinity Day. La tarte flambée, c'est meilleur que la manière dont je le prononce. Nous, on était au magasin hier soir. Il y avait une maman avec son bébé dans les bras, elle essayait de gérer son bébé, son petit garçon en plus. Et quand on va faire du shopping, quand on va faire des courses avec ses enfants, les parents le savent, il y a un peu de plus de pression, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et tout d'un coup, le petit garçon, fait « Tarte flambée, tarte flambée !» Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Sa maman, évidemment, elle lui a acheté une tarte flambée. Et là, je me suis dit, ils commencent tôt en France, hein, avec la tarte flambée. C'est bien, c'est bien. Alors, je me réjouis d'en manger. J'en ai déjà mangé en avril et je me réjouis d'en remanger. Donc, revenez au Trinity Day le 13 octobre. Autre chose que j'apprends, et je ne ferai pas ça toujours, mais c'est mes périodes d'apprentissage, hein. J'ai appris que la cigogne est un oiseau magnifique. Pour à Strasbourg, la cigogne est un oiseau connu, c'est juste. Mais par contre, j'ai appris une chose sur cet oiseau. Il y en a beaucoup. Et dans la zone où j'habite, ils aiment beaucoup voler par-dessus ma voiture. Je vous n'explique pas plus. Je vais laisser votre imagination prendre le relais. Mais quand je me gare sous les arbres, eh bien, je sais qu'au moins il y avait des oiseaux. Et c'est un peu comme la vie, j'imagine. On reconnaît la beauté des choses, mais quand de la beauté vient d'autres choses, des challenges, de la saleté parfois. Et donc ce matin, en entrant dans notre voiture, je me suis dit, mince, on a oublié de la laver. Je me suis dit, mince, avant d'aller à l'église, il faut que je nettoie la voiture. Si les gens voient ça, la voiture dans cet état-là, ils vont se dire qu'on n'en prend pas soin. Et ma femme m'a dit, si tu te gares loin, personne ne verra ta voiture. Alors ne cherchez pas ma voiture, ok? Bref, nous apprenons des choses. C'est une période d'apprentissage. Et comme nous l'avons chanté ce matin, nous faisons tous face à des challenges intéressants. Comme on l'a dit la semaine dernière, ce message est en quelque sorte... On a un thème, comme on l'a dit la semaine dernière, Dieu est plus gros que ce que nous pensons. On ne peut pas le mettre dans une boîte. On a parlé que Dieu, les gens limitent Dieu, le mettent en quelque sorte dans une boîte qui correspond à leur vie. Mais nous, en tant que croyants, nous pensons que, quel que soit le temps depuis lequel on marche avec Jésus, on pense que l'idée... On reconnaît que les circonstances autour de nous ne vont pas toujours comme on veut. On pense que quand on devient chrétien, la vie devient facile. Hein? Vous êtes rendu compte de ça? Si vous êtes un nouveau chrétien, vous devez parler à un ancien chrétien. Parce que ce que vous allez découvrir, c'est que juste parce que vous devenez chrétien, ça ne veut pas dire que la vie devient facile pour vous. Et ça devient excitant, oui, ça devient intéressant, ça devient incroyable. Mais il y a toujours des challenges, des problèmes, des situations difficiles. Et du coup, je voudrais qu'on reconnaisse ça ce matin. Que notre désir à nous, que Dieu nous emmène dans un voyage de découverte. Il veut nous montrer sa grandeur. Il veut qu'on la voie. Il veut nous amener à un point où on puisse vraiment voir sa grandeur. Et il veut nous emmener au point où on est totalement dépendant de Jésus. Il faut qu'on arrive à cet endroit de dépendance totale. Et parfois, nous avons un message caché dans notre cerveau. On dit, mais Seigneur, je fais ce que tu me demandes de faire. Et maintenant, il y a un problème qui vient. Mais je pensais que ce ne serait pas comme ça. Alors, on vient et il nous répond, non, je t'emmène dans un voyage. Et une des plus belles histoires d'un voyage et de la découverte de la grandeur de Dieu, c'est dans le livre de Jean, chapitre 11. Vous avez vos Bibles? Que ce soit une Bible papier, ou que ce soit une application sur votre téléphone, c'est bon aussi. Vous pouvez également regarder les versets qui sont affichés. C'est une de ces situations où on vient à la rencontre de ces trois personnes, Marthe, Marie et Lazarus. Ils arrivent à un point où ils n'auraient jamais pensé arriver, dans une situation où ils n'avaient jamais imaginé arriver. Jésus vient, il intervient, et il a déjà un plan. Il veut leur révéler sa gloire, et il veut le faire dans nos vies aussi. Il veut que nous voyons, que nous puissions expérimenter sa gloire, vivre sa gloire, la gloire de Dieu. Et c'est à ça qu'il vous appelle ce matin. Il ne vous appelle pas à une vie médiocre de disciple, ou ce qu'on pourrait appeler parfois un disciple de bas étage. Non, il veut vous emmener au prochain niveau, à la prochaine étape pour d'être au marché avec lui. Donc voici l'histoire. Lazare tombe malade. Marthe et Marie font ce qu'on ferait aussi. Elles appellent celui qui était leur ami, Jésus, pour qu'il vienne et qu'il l'aide. Parce que que fait Jésus? On sait tous ce que Jésus fait. Il guérit les gens malades, n'est-ce pas? Donc si vous connaissez Jésus, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Un de vos bons amis est malade. Et Jésus, viens le guérir. Mais ce qu'on découvre dans l'histoire, c'est que Jésus a un autre plan. Il a une manière différente de faire les choses. Et c'est une des choses qu'on doit vraiment comprendre, c'est que Jésus fait les choses à sa manière. Il enlève les différentes couches de notre autosuffisance, de notre indépendance, et il nous rend totalement dépendants de lui. Je ne suis pas sûr que les oignons en Amérique sont les mêmes que les oignons en France, mais il y a des couches, les oignons ont différentes couches. Et on pèle les couches. Et bien souvent, très souvent, nous, en tant que chrétiens, nous sommes comme des oignons. Et alors comment dire ça? Bien, Dieu enlève, pèle les couches à propos de nous, des choses que nous devons avoir conscience à propos de nous, pour qu'on puisse voir et comprendre ce qui est en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Si vous venez à Dieu de votre propre manière, vous manquez Dieu, vous le loupez. Mais si vous venez à Dieu à sa manière, vous découvrez sa grandeur. Vous découvrez qu'il est suffisant pour tous vos besoins. Et ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous emmener sur ce voyage et nous transformer. Il veut nous rendre différents. Il veut nous rendre tout neuf. Et continuer à nous renouveler chaque jour. C'est ça notre transformation, c'est ce qu'il veut faire. Il vous aime trop pour vous laisser tel que vous êtes. Il veut vous changer. Et si vous vous dites en devenant chrétien, c'est que vous n'aurez pas besoin de changer, et j'ai une nouvelle pour vous, ce n'est pas la vérité. Il va vous changer. Il va vous changer pour le meilleur. Il va vous changer puissamment. Il va vous rendre. Il va vous façonner à son image, une nouvelle créature. Il va vous changer en tous les cas. Alors, accrochez-vous pour cette expérience qui va être incroyable. Alors voici ce que je voudrais qu'on, qu'on regarde ce matin, c'est que souvent, que vous soyez un chrétien de longue date ou un nouveau chrétien, il veut vous emmener plus profondément avec lui, il veut vous donner une compréhension plus grande de lui. Et ouais, que ce soit tout neuf pour vous ou que ça passe des années que vous marchez avec lui, même si vous n'avez pas encore pris la décision de suivre Jésus encore, vous n'êtes pas sûr, vous êtes en train d'explorer Christ. Vous, peut-être vous êtes venu à l'église et vous vous dites « Je ne sais pas tout ça à propos de Dieu. » Et vous dites, vous vous demandez « Est-ce que je dois lui faire confiance ?» Et je vous le dis, Jésus vous incite à traverser cette ligne et lui faire confiance. Il veut vous emmener plus profondément dans la foi avec lui. Que vous soyez vieux ou jeune, il veut vous emmener dans des nouveaux niveaux d'intimité et de confiance avec lui. Quand nous étions à Orlando, près d'Orlando, en Floride, à 2 heures du Mexique, on pouvait aller très rapidement à l'océan. Et quand j'étais dans l'océan, moi, j'avais les pieds dans l'océan, et je regardais, je me disais, tiens, je crois que la France est de l'autre côté. Non, c'est pas vrai. Maintenant, je le ferais peut-être, mais avant, je pensais pas à ça. Mais quand vous êtes au bord de l'océan, parfois, on est comme les gens qui vont dans l'océan et l'eau est un peu froide, un peu fraîche, et on met juste notre doigt de pied dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On met notre doigt de pied, on trempe un peu, et puis on enlève le pied. On peut rentrer un peu plus profondément, jusqu'au genou, et puis après on se dit, non, ça suffit. Et quelle que soit la raison, peut-être il y a des requins, ou je ne sais pas, non, oubliez les requins, bref, c'est pas l'histoire, mais... Là où je veux en venir, c'est que Dieu vous appelle à aller plus profond. Plus profond, pas juste tremper votre pied, mais il vous appelle à aller au large, à aller dans la profondeur de qui il est. Et c'est pour ça qu'il donne cet appel à Marie, à Marthe, à Lazare. Donc si on revient dans les Écritures, on va pas tout lire. On a déjà dit, comme on l'a dit au verset 2,
verse 1, now a man named Lazarus was sick. He was
from
Bethany, the village of Mary and his sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick,
il y avait un homme, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Et donc Lazare était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » Donc Jésus, il entend. Il ne vient pas, mais...
Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
Il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. C'est les gens qui sont venus le voir, c'était vraiment des disciples qui l'aimaient. Et ils ont dit, mais Jésus, Lazare est malade, viens, dépêche-toi. Et lui, il repousse 2 jours. Alors quand on lit ça, on se dit, mais bien sûr, on connaît la fin de l'histoire, donc peut-être qu'on comprend. Mais Jésus, il n'est pas dans il n'est pas synchronisé avec eux. Il n'est pas au même rythme qu'eux. Jésus fait quelque chose de beaucoup plus incroyable, beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus que ce qu'eux attendent. Eux, ils attendent que lui va tout de suite agir d'une certaine manière. Alors quand nous venons... à ce texte, on réalise que ces gens sont comme nous. On lit la Bible, on lit plein d'histoires dans la Bible et on se dit, waouh, c'était des super chrétiens, des super croyants, des personnages bibliques. Mais non, c'était des hommes et des femmes. Ils avaient les mêmes questions que nous. Leur problème était un peu différent parce qu'ils n'avaient pas les technologies d'aujourd'hui, mais ils étaient humains, tous ces gens. Dont on lit les histoires dans la Bible, ils avaient aussi les mêmes doutes, les mêmes incertitudes, aussi des problèmes financiers, des challenges. Ils faisaient face aux mêmes problèmes que nous. Donc si vous lisez des fois les histoires des gens de la Bible en disant « Mais non, mais ça n'a pas de rapport avec moi », c'est pas vrai. Lisez l'Ancien Testament et c'est assez incroyable de voir que les problèmes qu'ils avaient, que les disciples de Dieu avaient toutes sortes de problèmes à l'époque. Donc, nous arrivons à ce passage et on reconnaît que Marie et Lazare sont des gens comme nous. Mais Jésus n'obéit pas à ce qu'ils veulent, à leurs attentes, il veut leur montrer plus que ça. Et voici la question, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans vos vies, il faut lui faire confiance et ensuite agir sur ce qu'il vous dit. La confiance mène toujours à l'action, on va le revoir dans un moment. Il va vous emmener plus profond que ce que vous comprenez à ce moment-là. Et comment répondre ? Donc la première chose, c'est que Dieu nous emmène dans un processus, dans un voyage, où on peut se débarrasser de nos questions, de nos confusions sur comment Dieu fonctionne. Donc Jésus vient, mais deux jours plus tard, il arrive, et après avoir dit ça, verset 11, on lit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort et de sa résurrection, mais il ne comprenait pas. Mais c'est pas des jeux de mots. Lazare est bien mort. Donc, s'ils arrivaient à suivre. Donc, ses disciples ont pensé qu'il disait qu'il dormait. Et donc, il leur répète, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Il est versé comme ça, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok. Il était malade, Jésus n'est pas allé, et maintenant il est mort, et Jésus y va. Combien d'entre vous, ça vous pose question? Est-ce que ça vous rappelle des choses dans vos propres vies? Est-ce que c'est ce genre de confusion? Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Je ne comprends pas, je veux savoir. Et bien sûr, il dit, ah, mais je ne te le dis pas tout de suite. Donc là, nous comprenons que Jésus vient. Et la première chose qu'on découvre, c'est Marie et Marthe lui posent des questions. Et au verset 12, après qu'il ait dit qu'il était endormi, on a lu versets 20 et 21. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce n'était pas une rébellion de la part de Marthe, c'était plutôt comme une question. Mais elle disait ce qu'elle avait sur le cœur. « Mais si tu avais été là, Seigneur, il ne serait pas mort. » Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, je sais, ton frère se relèvera. Et Martha lui dit, oui, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Et là, Jésus lui dit des mots très profonds. Il lui dit, c'est moi qui suis la résurrection. La semaine dernière, on a dit que Jésus est celui qui est. Il lui dit, je suis qui je suis. Et là, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il lui demande à elle, est-ce qu'elle le croit vraiment? Et il lui répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc elle le croit vraiment. Et un peu plus tard, un peu plus loin, verset 32, on peut lire, Marie arrive à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc c'est pas juste Marthe. Hein, on dit que Martha est la plus pragmatique et que Marie est la plus spirituelle. Mais elles sont toutes les deux pareilles, elles posent les mêmes questions. Si tu avais été là, si seulement tu avais été là, et la question pour nous ce matin, alors que nous comprenons comment ça se passe, c'est que c'est une réponse naturelle, humaine, mais que nous devons reconnaître que Dieu il agit toujours d'une manière constante. Son caractère, sa nature ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, et pour toujours. Il est fidèle. Il garde ses promesses. Il tient ses promesses. Mais il ne fait pas toujours les choses de la même manière. Lisez les évangiles. Vous avez jamais remarqué dans les évangiles que parfois, il guérit les gens, il utilisait sa salive, par exemple, utiliser du sable, mettre sur les yeux des aveugles et guérir de cette manière. Parfois, il dirait juste « Lève-toi et marche ». Parfois, il pose une question « Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux marcher ?» Voilà ce que je veux, c'est ça. On sait ce qu'il veut, il est aveugle, il veut voir. Mais il pose quand même la question. Jésus travaille avec nous d'une manière nouvelle à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais d'une manière différente. Mais ça reste en consistance, en adéquation avec son caractère et sa nature. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a des choses qui doivent nous enlever, qu'on doit laisser tomber pour le suivre et lui faire confiance totalement. Parfois, on autorise de la distance entre nous et Dieu parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut, ce qu'il fait. Alors, on s'éloigne de lui, alors que malheureusement, c'est le moment précis auquel il faut qu'on s'approche de lui, qu'on lui donne toutes nos questions, tous nos doutes, toute notre frustration, d'une manière respectueuse, bien sûr, même notre colère. Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais. Toutes ces années, j'étais chrétien, mais pourquoi ça m'arrive ? Alors, peut-être que vous ne le dites pas à votre voix, peut-être même pas à votre famille, parce que vous avez peur de le faire. Mais dans vos cœurs, vous avez eu tous ces moments. Et si on laisse la distance ou la confusion, la frustration s'installer, ou les doutes, pourquoi est-ce que cette personne malade dans ma famille, je ne comprends pas, je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes avec nos enfants? Pourquoi on a des problèmes avec notre église? Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de finances? Seigneur, je veux savoir ce qui se passe, alors je viens à toi avec ces questions, au lieu de s'éloigner de lui. Donc on doit laisser derrière nous tout ça, toutes ces frustrations, cette distance. Nous, on doit laisser derrière nous l'attente qu'il agisse d'une certaine manière et comprendre qu'il peut agir différemment à chaque fois s'il le souhaite. Regardez la variété de la création. Voilà comment Dieu, combien Dieu est merveilleux. On lui apporte nos doutes, on laisse nos doutes derrière nous. On ne doute pas qu'il prenne soin de nous. Bien sûr qu'il fait attention à nous, il prend soin de nous. Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Okay? Réalisez cela, Dieu n'est jamais en retard. Jésus est exactement à l'heure. Il est venu juste au bon moment. Même si eux, ils pensaient qu'il était en retard. Et dans vos vies, c'est pareil, il est à l'heure, il sera au rendez-vous, mais vous ne savez pas quelle est l'heure de rendez-vous. Pensez-y un instant. Donc, on revient dans ce passage. On réalise qu'on est dans un processus, un voyage. Dieu a un plan pour révéler sa gloire et tout ce qu'il fait est pour votre bien. Il travaille pour votre bien. Son plan parfait est pour votre bien. Et donc on comprend dans ce passage que lui, il a pas de confusion. Et à propos, je vais vous dire quelque chose à propos de Dieu, et que j'espère que vous comprenez. Dieu n'est pas stressé, il n'est pas perdu dans ses pensées, dans ses plans. Il est absolument sûr de ce qu'il fait. Et peut-être que vous êtes stressé, vous êtes un peu perdu. Mais voici ce que je veux vous donner. C'est ça la tension de notre foi quand on vient au pied de sa croix avec notre stress et nos doutes et qu'on vient au pied de lui qui n'est pas dans le doute, qui n'est pas perdu. Lui nous emmène dans ce chemin de foi. Et on continue à lire dans ce passage que Jésus... On va continuer à arriver quand il était là, verset 33. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Et Jésus pleura. Si vous avez déjà eu des problèmes... Si vous avez eu des problèmes pour mémoriser les versets de la Bible, c'est celui-là qu'il faut vous rappeler. C'est le plus court. Jésus pleura. Il sait ce qu'il va faire. Il sait très bien ce qu'il va faire dans une minute. Pourquoi est-ce qu'il pleure ? Et parce qu'il a vu qu'ils étaient tous affectés par la mort de Lazare. Tous ces gens qu'il aimait, il a vu tout ce que le péché avait apporté dans ce monde et la mort. Et il a vu ce qu'il était venu réparer. Et donc, par compassion, il a pleuré. Et on continue à lire. Et après avoir pleuré, les Juifs dirent, alors voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Évidemment, dans la vie, il y aura toujours des gens qui ne vous aident pas. Ah, mais il aurait pu se pointer plus tôt. Non. C'est pas ça dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de ce que Jésus fait après. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Verset 39, Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là ». J'aime beaucoup Marthe. Elle est tellement pragmatique. Je veux dire, ok, bien sûr. Et Jésus lui dit, ce que je pense c'est la clé là, le verset clé de ce passage. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, et pour ça, vous devez faire confiance. Et donc, il les emmène là où ils doivent aller. Il leur offre l'opportunité de voir la gloire de Dieu, cette gloire qui l'honore, cette gloire qui est magnifique. Et on se dit, mais c'est quoi la gloire de Dieu? Dans Exode, Moïse demande à Dieu, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Seigneur, montre-moi ta gloire. Quelle question audacieuse! Dieu Tout-Puissant, montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et vous savez quoi? Ce que fait Dieu? Il est honoré. Ça lui plaît, vraiment, que Moïse lui pose cette question. Enfin, quelqu'un me pose les bonnes questions. Marthe et Marie, voilà l'opportunité. C'est pas une question, mais c'est un peu comme une question. Il leur dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et dans le cas de Moïse, Dieu a montré. Dieu a protégé Moïse parce qu'on ne peut pas voir la face de Dieu, sinon on meurt. Mais il s'est montré à Moïse. Et qu'est-ce qu'il lui a montré? Il a autorisé sa présence entière à passer devant Moïse. Et sa bonté. Il a fait passer toute sa bonté devant Moïse, en le protégeant. Sa grâce, sa miséricorde, son amour, ses bénédictions, son pouvoir qui était mis au jour, sa bonté, sa douceur. Sa faiblesse aussi, Jésus était appelé faible. Parce qu'il était gentil, mais tout-puissant. C'était un pouvoir contrôlé. Cette chose magnifique et sa bonté qui passe, qui est passée à côté de Moïse, et qui est avec nous, que ce soit dans les moments lumineux ou dans les moments sombres, il nous montre sa bonté et tout ce qu'il a accompli. Et donc, à ce point de l'histoire, ils veulent voir la gloire de Dieu. Et je pense que c'est ce qui est intéressant. C'est qu'on connaît l'histoire, bien sûr. Donc, Marthe, elle donne l'ordre de rouler la pierre. Je pense que Marthe, c'est elle qui est au contrôle. C'est elle qui guide. Dès qu'il y a Marthe dans une histoire, vous pouvez penser que c'est elle qui est le leader dans l'histoire. En plus, Lazare est mort, donc ce n'est pas lui qui est le leader dans cette histoire. Et Marie, elle est probablement en train de pleurer, ce qui est OK, c'est bon. On va la revoir dans l'histoire dans un instant. C'est une belle illustration, mais je pense que Marthe dit « OK, Jésus, roulez la pierre ». Et les hommes roulent la pierre. Jésus prie et il dit d'une voix forte, après avoir prié, il dit quoi? Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les mains et les pieds attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Donc il ne pouvait pas voir grand-chose, il pouvait à peine marcher, vous voyez. Il était tout entouré d'un linge mortuaire. Et pour préserver le corps, ils étaient presque momifiés, enfin pas tout à fait. Et voilà ce qu'il a fait. Et c'est incroyable. Et Jésus dit, leur dit, enlevez-lui ses habits mortuaires et laissez-le aller. Il est vivant. Celui qui était mort est vivant. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens, beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Et là, ils décidèrent de le tuer. Il s'est dit qu'il va nous créer des problèmes avec les Romains et du coup, on va avoir des soucis et on va perdre notre autorité, se dirent les pharisiens. Parce qu'eux, ils voulaient continuer à vivre leur foi à leur manière et pas comment Dieu les invitait à le faire. Mais il guérit. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il l'a fait sortir. Et je pense que c'est ce qui doit être incroyable pour nous, c'est de comprendre que ce qu'il nous appelle à faire, c'est des choses comme ça, d'être dans une situation impossible, comme devant cette tombe, et de voir malgré tout le travail de Dieu dans nos vies. Il nous invite à aller plus profondément dans sa gloire. Il nous invite à participer. Et bien sûr, ça requiert de notre part d'être actifs. De passer par ce processus de voir sa gloire. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous exactement? Pour eux, ça veut dire qu'il l'a fait différemment de, que la manière dont ils attendaient. Il a dit, c'est ma manière ou c'est la manière de Hollywood? Comment ils auraient fait dans les films hollywoodiens? Jésus aurait fait un truc du genre, ok, allez, tout le monde recule. Comme dans Avengers, tout le monde recule. Je vais vous montrer mon pouvoir. Je ne sais pas quel accent c'était, mais bon. Bref. Je vais vous montrer mon pouvoir. Comme Arnold Schwarzenegger ou quelqu'un comme ça. Et il aurait fait un truc comme ça avec ses mains. Et tout d'un coup, la pierre aurait vibré, elle aurait roulé. Et tout d'un coup, sans aucune aide humaine, la pierre aurait roulé. Il aurait dit à Lazare, sors ! Et Lazare serait sorti et tout le monde aurait fait, waouh, il est tellement puissant. Mais c'est pas ça qu'il a fait, n'est-ce pas ? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça comme ça? Si moi j'avais dû écrire un scénario, c'est ce que j'aurais fait. Et Jésus, c'est waouh, il est puissant, je veux voir ce pouvoir. Non, non, non. C'est pour ça qu'il est Dieu et que je ne le suis pas. Hein, vous avez compris ça? Il est Dieu, je ne suis pas Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut que les autres participent avec lui. Il veut que Marthe croie, qu'elle prenne un pas de foi. Il veut qu'elle elle-même fasse le pas de foi de rouler la pierre sur le côté. Pour qu'au moment, c'est toujours mon pouvoir qui va ressusciter Lazare. Mais tu auras eu accès à ce processus de montrer sa gloire. Tu as accès à tout. Je veux que tu fasses un pas en avant et que tu crois. Et en d'autres termes, il lui dit, je veux que tu arrives dans un endroit où tu dois faire des choix dans votre vie, que vous soyez un chrétien mature ou un nouveau chrétien, même un non-chrétien, il vous appelle. Il vous appelle. Il dit, il faut choisir. Il faut choisir de se tenir dans une situation qui a l'air impossible, mais on peut être sauvé, on peut être pardonné, on peut être compris, on peut apprendre la majesté, la grandeur de Dieu et savoir que notre vie peut être transformée, changée par son pouvoir, que vos circonstances, en les amenant dans sa présence, en lui remettant, il y a une manière de... Il veut que vous sachiez qu'en lui amenant tout, il peut vous libérer. Il vous demande juste de croire et de faire ce que lui vous demande de faire, quel que soit ce que c'est. Que ce soit rouler une pierre sur le côté, que ce soit de remettre en prière un enfant malade ou quelque chose qui vous pèse, et de dire, Seigneur, c'est toi qui le libères. Et pour les gens que vous aimez, qui ne le connaissent pas, vous pouvez dire, Seigneur, je te remets cette personne, tu peux le transformer. Il y a tellement de choses qu'il peut faire. Et c'est ce qu'il vous appelle à faire, ce qu'il nous appelle à faire. Vous voyez, il vous appelle. Il vous invite à venir plus profond avec lui pour voir sa gloire. Et pour ça, nous devons faire confiance et obéir. Et comme Marthe a fait confiance et a obéi. Alors voici la question pour nous ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique d'aller plus profondément avec Dieu? Quelle est la prochaine étape? Alors, de manière très pratique, en trois points, on peut le voir. Je vais me dépêcher de passer sur ces trois points pour ne pas en faire un sermon à part entière. Mais dans le chapitre 12, si vous tournez la page, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas, Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table. Bien sûr, Marthe servait. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Donc ils étaient inclinés, donc leurs pieds étaient à l'écart de la table et leur tête penchée sur la table. Et là, Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher. Et certains disaient que c'était vraiment extravagant. C'était ça valait presque un an de salaire. Et on versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et donc ça, c'est un tout autre sermon, un tout autre message pour un autre moment, mais je vais vous donner quelque chose quand même qu'il ne faut pas louper dans ce texte. Dans le chapitre 11, au commencement, Marie, elle a dit, « Si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et maintenant, elle est là, à genoux. Elle ne pouvait pas le faire debout. Elle devait se mettre à genoux, s'incliner, parce qu'elle verse ce parfum cher sur les pieds de Jésus. Mais ensuite, elle ne prend pas une serpillière, elle prend ses cheveux ou une serviette. C'était totalement indigne, c'était totalement extravagant. Et Judas qui se dit, « Oh, qu'est-ce qu'elle fait? C'est bizarre, c'est maladroit. » Et Marie dit, « Je m'en fiche d'être maladroite, je m'en fiche de tout ça. Ça n'a pas d'importance ce que les gens pensent. Moi, je veux juste dire cela à Jésus. » C'est ce que je vous dis à propos de Jésus. Jésus, ton plan, pas le mien. Ta manière de faire, pas la mienne. Ton pouvoir, pas le mien. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle se met à genoux et elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Vous savez ce que je pense qu'elle était en train de se dire? C'était, oui Seigneur, ta manière, pas la mienne, ta manière, pas la mienne. D'une manière dévouée, tout comme nous on chantait, tu es bon Seigneur. C'est ça qu'elle était en train de penser, je pense, et ce qu'elle était en train de montrer. On devrait être un peuple qui fait cela. Aller à un niveau supérieur de dévouement. Et la deuxième chose qu'on a besoin de comprendre, c'est d'aller à un nouveau niveau d'être un disciple. On va passer rapidement sur ceci. Qu'est-ce qui se passe quand Lazare sort de la tombe? Il est vivant. Hein? Il a un linge mortuaire autour de sa tête et des bandelettes autour de ses pieds et de ses mains. C'est une belle illustration d'être un disciple. Il est vivant, mais il est toujours attaché par son passé. Il y a encore des choses de son passé qu'il a besoin des chrétiens et des autres pour l'aider à s'en débarrasser, pour les aider à se débarrasser de ce linge mortuaire. Et voilà ce que ça veut dire de suivre Dieu. Nous devons enlever les linges mortuaires qu'on a sur nous, en quelque sorte, pour être libres. Toutes ces choses pour lesquelles vous ne vous êtes pas pardonné, toutes ces choses qui vous hantent, que vous devez remettre à Jésus. Peut-être que vous avez besoin d'un autre frère et sœur pour vous aider dans ce processus, ou une équipe de prière pour vous aider à prier là-dessus et à le relever, ce fardeau de vos épaules, comme on l'a dit la semaine dernière. Mais on doit se débarrasser de ces linges mortuaires, de ces choses, de ces casseroles de notre passé, de nos peurs, de nos doutes. Et on doit tout abandonner, et surtout notre volonté à Dieu. Et la dernière chose, si vous êtes un disciple de Jésus, vous avez enlevé ces linges mortuaires, tout ça, les gens ne vont pas aimer ça. Les gens ne vont pas aimer ça. Et on va lire chapitre 12, verset 10. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Si vous pensez que vous avez une mauvaise journée, ça, c'est pas rien comparé à Lazare. Il était malade, il est mort, et Jésus l'a ressuscité d'entre les morts, et maintenant les gens veulent le tuer. Je ne pense pas qu'aucun d'entre vous ait eu ce genre de problème, ok? Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous de voir cela? Parce que quand vous vivez une vie où la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie, les gens vont le voir. Et les gens vont venir et vont vouloir savoir pourquoi. Ils vont voir Jésus, ils vont vouloir savoir quelle est la différence dans votre vie, pourquoi vous avez l'espoir quand eux ne l'ont pas. Et certaines personnes vont résister. Et c'est pourquoi vous devez être ferme, vous devez être fort. Vous devez dire, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, et je vais faire cela en lui faisant confiance, et en le suivant, et en lui obéissant. Parce qu'il est Dieu, et il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon pour moi et pour vous. Amen. Prions ensemble.